Grand Débat, Nicolas Dose.
Thème du Grand Débat, l'Internet à haut débit. Les vœux du gouvernement, en tout cas d'Éric Besson, couvrir 100% du territoire en très haut débit fixe et mobile d'ici à 2012. Le problème est de savoir qui va payer. L'ARCEP, le gendarme des télécoms, compare le chantier fibre optique au déploiement du téléphone dans les années 70 et estime que le coût sera 20 milliards d'euros par an pendant 10 ans. C'est un vrai chantier qui est très concret parce qu'il faut tendre de la fibre optique sous les trottoirs, dans les égouts. Après, il faut obtenir l'accord des syndics de copropriété. Et puis enfin, il va falloir la monter, cette fibre, dans les cages d'escalier pour la connecter à chaque domicile. On en parle aujourd'hui avec Maxime Lombardini, qui est directeur général d'Iliad, la maison mère de Free, Dominique Roule, président de Bolloré Télécom, enseignant à Paris Dauphine, et qui publie les 100 mots de l'Internet à la collection Que sais-je, aux presses universitaires de France. Il a été membre du collège de l'ART, qui aujourd'hui est devenu l'ARCEP, et Louis-Pierre Vénès, qui est directeur exécutif d'Orange France. Alors, Maxime Lombardini, tout à l'heure, Louis-Pierre Vénès nous disait nos réseaux sont disponibles, nos fourreaux sont disponibles, il y a de la place pour y mettre la fibre des concurrents. On a demandé à nos concurrents de faire des tests. Comment ça, ils sont pas...
Je n'ai pas dit qu'il y avait de la place. J'ai dit qu'ils étaient disponibles quand il y avait de la place. Ce n'est pas exactement la même chose. Parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de place et ça, c'est un vrai problème.
Il y a des endroits où le fourreau, on ne peut pas en mettre... Il est plein.
C'est plein.
D'accord. Comment ça se fait?
Parce que...
Je ne suis pas un spécialiste de ça.
Non, mais quand vous ouvrez... On a ce qu'on appelle sur les trottoirs des chambres que les gens peuvent voir dans les rues avec des plaques en fonte. Et quand vous ouvrez ça...
C'est rectangulaire, généralement.
Voilà, c'est ça. Et donc là, vous avez des tuyaux qui arrivent. Et dans ces tuyaux, on passe des câbles. Alors jusqu'à présent, essentiellement des câbles en cuivre. On a maintenant beaucoup d'interconnexions entre des gros équipements qui sont en fibre. Mais suivant les endroits, quand vous avez de la place, on continue à mettre dedans. Et puis on recrée que s'il n'y a plus de place. Donc quand vous ouvrez une chambre, vous découvrez s'il y a de la place ou pas de place.
Ça veut dire que pour installer ça, Orange bénéficie de l'infrastructure déjà en place de France Télécom ou il faut recréer quelque chose de toute pièce?
Non, c'est justement la proposition que nous avons faite en disant que si nous installions quelque chose, nous nous engagions à laisser autant de place que ce que nous occupions aux concurrents qui viendraient derrière nous et on leur demande de faire la même chose, donc de manière à répartir le disponible entre les différentes sociétés.
Donc, pour pas qu'on vous dise, vous profitez d'une infrastructure payée par le contribuable pendant des décennies.
Ce qui ne serait pas acceptable.
Voilà. Qu'est-ce que vous répondez, Maxime Lombardini? Il semblerait que Orange fasse preuve de très bonne volonté quand on écoute Louis-Pierre Vénès.
Alors là, on a toujours, il faut faire attention aux mots. Est-ce que c'est la très bonne volonté? Comment on arrive aujourd'hui à avoir un accès à ce qu'on appelle les fourreaux, donc les 300 000 km de tuyaux dans les trottoirs qui permettent de tirer la fibre vite et efficacement sans faire de tranchées? C'est parce qu'on a saisi le Conseil de la concurrence il y a un an, parce qu'on n'avait pas d'offre, on n'arrivait pas à avoir une offre, et que l'instruction est toujours
en cours. Donc c'est la justice qui a contraint Orange à vous ouvrir ses fourreaux.
Disons que c'est sous l'amicale pression du Conseil de la concurrence.
L'amicale pression, moi j'ai très bonne volonté, là c'est l'amicale pression.
Quelques jours avant les mesures conservatoires, France Télécom a dit on va faire une offre sur les fourreaux, et on est toujours en phase d'expérimentation. Donc quand M. Vénès dit on n'a que 10 000 abonnés, c'est une vue un peu partielle des choses. Il y a des milliers de kilomètres de fibres tirées jusqu'au pied des immeubles dans toute la France. Et là, je renvoie au site internet d'Orange qu'évoquait M. Vénès. Il y a 15 des plus grandes villes de France où il y a des zones entières qui sont déjà fibrées.
D'accord.
Après, il y a peut-être que 10 000 abonnés raccordés, mais il suffira d'appuyer sur le bouton pour les raccorder très vite derrière. Nous, les opérateurs alternatifs, on n'a toujours pas une offre de fourreau opérationnelle. Elle va l'être dans les semaines, dans les mois qui viennent. L'ARCEP, le régulateur, fait un gros travail. Mais cette bataille de la fibre, c'est pas tellement qu'on n'y arrivera pas, c'est une question de temps. Ça fait 3 ans presque, deux ans qu'on a annoncé le lancement de la fibre optique, et aujourd'hui on n'est pas capable de la déployer massivement dehors de Paris.
Quand on dit « on », c'est qui le « on » c'est tout le monde.
En l'occurrence Free qui a déclenché le mouvement, et puis les autres ont suivi.
Les autres, neuf?
Neuf, Orange, etc.
D'accord.
Mais le cadre, il se met en place très lentement. Et c'est là-dessus qu'on a poussé un peu un cri d'alarme, c'est que la France... En ADSL a une position très privilégiée. On a l'offre triple play, ce qu'on appelle triple play, c'est l'ADSL, le téléphone, la télévision, la moins chère au monde. Et ça, c'est pas parce qu'il y a une particularité française, c'est parce qu'il y a des acteurs, et Free en particulier, qui a positionné le prix de l'ADSL très bas.
C'est la concurrence qui fonctionne, voilà. Il y a de la concurrence qui fonctionne dans ce domaine-là.
Vous avez prononcé le juste mot. Le seul vrai débat de la fibre, c'est pas un débat d'argent, parce qu'il y a plein d'investisseurs qui sont prêts à y aller. C'est pas un débat de technologie, parce que la fibre, ça fonctionne depuis 20 ans. C'est une question de concurrence. Est-ce qu'on a le cadre réglementaire pour que la concurrence soit assurée entre l'opérateur historique, qui a les infrastructures, qui a le tissu d'entreprise, qui est dans les copropriétés depuis un siècle pour le téléphone, et les opérateurs alternatifs qui n'ont pas ces mêmes moyens?
Bon. Dominique Roux, un peu en arbitre de ce qui vient d'être dit, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous êtes convaincu plus d'un côté, plus de l'autre? Est-ce que tout le monde a raison?
Non, la seule chose qui m'amuse dans ce débat, c'est que je rajeunis de 11 ans. le premier catalogue d'interconnexion avec France Télécom il y a en 1998 devait se signer avant le 31 décembre. On signait en général le 29 ou le 30 parce qu'après il y avait le réveillon et on pouvait plus, c'était la loi. Donc ça me rajeunit, mais c'est naturel et sain. C'est pour ça qu'il y a un régulateur. Sinon, on n'aurait pas besoin de régulateur si toutes les choses se passaient normalement. Le régulateur est là pour réguler, c'est-à-dire il y a des textes qui sont pris par les pouvoirs publics, parlement et gouvernement, et ensuite le régulateur met en musique ces textes pour que ces textes permettent, en particulier la concurrence, comme on vient de le dire, qui est essentielle parce qu'il n'y a pas d'innovation sans concurrence.
Pas d'innovation sans concurrence. Louis-Pierre Vénès, vous aviez l'air dubitatif lorsque Maxime Lombardini disait « aimable pression du Conseil de la concurrence ». C'est pas comme ça que vous avez vécu l'histoire ?
Je crois que ce que M. Lombardini oublie de dire, c'est que peu de temps avant, il avait déposé une plainte auprès du Conseil de la concurrence en disant que nous ne donnions pas une image exacte de notre infrastructure de génie civil, alors que nous étions en discussion sous l'égide de l'ARCEP, que cette plainte a été instruite et qu'il a été constaté que France Télécom avait révélé les choses telles qu'elles étaient. Et en parallèle, nous avons commencé à développer notre offre de génie civil et il n'y a pas eu de pression. Je pense qu'il faut être absolument clair. Orange souhaite le déploiement de la fibre. Orange souhaite avoir des concurrents dans ce secteur et nous ferons tout pour faire que les infrastructures que nous avons héritées de l'ancien monopole soient effectivement accessibles à nos concurrents. Par contre, ce qui est un nouveau réseau, nous souhaitons le gérer comme un nouveau réseau. C'est d'accord. Aussi simple que ça. Et donc, pour cette offre de génie civil, pour y revenir, nous avons fait une première proposition. Nous avons eu des remarques d'Iliade et des remarques de Neuf. Nous avons fait des modifications dans cette proposition et nous continuons en fonction de leurs demandes, puisqu'ils ont des technologies qui sont différentes de la nôtre. Donc, nous avons souhaité adapter ça. Donc, je pense qu'on a montré là-dedans qu'on était effectivement en train d'essayer de chercher des solutions et peut-être plus rapidement que nous laissent entendre les propos que j'entends ici.
Maxime Lombardini, qu'est-ce que vous lui répondez là, Pierre-Louis Vénès, qui semble avoir quand même fait carte sur table, d'après ce qu'il nous dit.
Bon, l'objectif n'est pas de polémiquer. Je prends acte de la volonté d'aller vite dans des solutions qui permettent de maintenir la concurrence. Et c'est notre souhait également. Donc, on a fait des propositions techniques pour le sujet un petit peu important qui est celui de la mutualisation. C'est-à-dire, comment fait-on pour que, s'il y a un seul réseau dans un immeuble, ce qui est le bon sens, on ne va pas faire trois réseaux en parallèle, trois fois des travaux, qu'on garantisse que les habitants de l'immeuble peuvent accéder aux fournisseurs d'accès de leur choix.
Aux commerciales qu'ils ont.
Voilà, ça c'est quand même un sujet important. Je pense qu'on parle beaucoup de techniques, de fourreaux, de trucs, de machins, mais en fin de course, l'abonné, il veut savoir s'il est libre.
Ça, c'est le bout de la course, Maxime Lombardini. Ce que disait récemment Pierre-Louis Vénès dans le Figaro Économie, nos concurrents veulent nous laisser faire le gros du travail, déploiement, investissement, obtention de l'accord des immeubles. Pas question qu'Orange paie et construise tout le réseau pour les autres. Il n'a pas complètement tort. Alors, on sent, parce que le fait d'avoir un opérateur historique bien installé, qui a les épaules larges,
je crois qu'il faut distinguer.
C'est aussi confortable.
Il faut distinguer. Il y a la partie qui est sur le domaine public. Je pense que personne ne souhaite, à commencer par les collectivités locales, qu'on recrée des tranchées dans toutes les villes de France pour tirer des câbles. Donc nous ne souhaitons pas particulièrement faire ces tranchées, mais ce n'est pas par absence de volonté ou de moyens, c'est que c'est simplement le bon sens de se dire s'il y a des tuyaux dans les trottoirs qui ont été financés par les Français pendant les 50 dernières années, autant les utiliser. Et c'est le point de vue de l'ARCEP, c'est le point de vue du Conseil de la concurrence, c'est le point de vue de la Commission européenne, et je crois que
le point de vue d'Orange.
D'accord.
Et c'est le point de vue d'Orange. Bon. Voilà,
on a terminé la phrase ensemble. On a la volonté d'investir beaucoup, et notre problème aujourd'hui est plus que le cadre réglementaire.
Vous en êtes où aujourd'hui chez Iliade d'investissement dans la fibre optique ?
Alors, on a bien avancé sur Paris, puisqu'à Paris, on peut utiliser les égouts, qui sont des égouts visitables.
Oui, mais en termes d'investissement financier ?
Alors, en termes d'investissement financier, on a communiqué les chiffres, on est sur un peu plus d'une centaine de millions d'euros, ce qui n'est pas énorme, et on voudrait dépenser plus. Simplement, pour dépenser, il faut pouvoir le faire au travers des infrastructures, et en dehors de Paris, on n'a pas les moyens encore de déployer de façon massive. Donc l'essentiel est fait sur Paris, où les choses avancent bien.
Dominique Roux, on peut s'autoriser à avoir le sentiment que les alternatifs se disent « Orange va travailler et puis on va débarquer après coup et négocier après coup. Et de toute façon, l'ARCEP nous aidera parce qu'on aide toujours les petits et tout et tout. »
Oui, les petites piques que je disais sur France Télécom, je les retourne aussi contre les alternatifs. C'est un jeu qui existe depuis longtemps. Les alternatifs essaient de profiter d'une situation acquise par l'opérateur historique, et l'opérateur historique essaie de maintenir. Donc, mais ça, c'est un jeu, j'allais dire, naturel. Non, ce qui est important quand même, c'est que l'ARCEP a sorti un chiffre qui est quand même impressionnant. Pour couvrir 60% de la population en fibre optique, ils annoncent qu'il faut 13 milliards d'euros. c'est considérable, 13 milliards d'euros. Et 60% de la population française, c'est à peine une vingtaine de villes. Donc, il faut voir l'enjeu et l'importance de ce projet. Je répète, 60% de la population se trouve dans les 25 plus grandes villes françaises, une vingtaine de villes. Pour l'agglomération parisienne, ça fait déjà
Mais beaucoup sont fibrés déjà quand même.
Plus ou moins. Et donc, 13 milliards d'euros sur 10 ans, c'est quand même des sommes colossales. Et alors après, il faudra attaquer l'autre partie, les 40% qui restent, et ça coûtera encore, en termes individuels, beaucoup plus cher, parce que, évidemment, moins il y a de clients au bout de la ligne, plus l'infrastructure pèse en prix de revient. Et donc, c'est pour ça que je répète qu'il faudra quand même pas s'obnubiler sur la fibre optique, il faudra chercher des solutions radio, qui sont des solutions moins chères, comme on le fait pour la télévision, d'ailleurs.
On marque une dernière pause, on va se retrouver dans un instant, pour se demander pourquoi on parle si peu souvent de numéricable dans ce chantier de la fibre optique. Quelle est aussi la stratégie de l'État, et que l'État est-il prêt à payer? En tout cas, des députés PS sont très dubitatifs. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de haut débit avec aussi la question de la quatrième licence?